Quoiqu'on soit les messieurs du nouveau mariage transporteur d'Est, les citoyens sages qui cherchaient un avenir, Napoléon peut deux jours après cette détermination dite à un de ses ministres, les deux décrets dans un moment de gaieté. On est donc bien joyeux de mon mariage. Oui, sire, beaucoup. J'entends. C'est qu'on suppose que le lion s'en demeura. Mais s'il peut dire le vrai, nous y comptons un peu. Eh bien, dit Napoléon, après quelques instants de silence, l'on se trompe. Et ce n'est pas au vice du lion qu'il faudra s'en prendre. Le chemin, lui, serait aussi doux, peut-être, que tout autre. Mais ne voyez-vous pas qu'avec l'air d'attaquer sans cesse, je n'y suis pourtant jamais occupé qu'à me défendre. Cette assertion un peu lassée des doutes tant qu'a duré la lutte terrible. Mais les joies, les indiscrétions de la victoire sont venues depuis consacrer la vérité. On a vu les uns se vanter qu'ils aurions continué la guerre jusqu'à ce qu'ils nous ont abattu leurs ennemis. Qu'ils n'avaient jamais eu d'autres pensées. D'autres n'ont pas craint de publier que c'était sous le masque des alliances et de l'amitié même qu'ils avaient urti le complot de sa chute. Aujourd'hui, et les deux jours suivants ont été pour moi remplis par une tracasserie qui m'était personnelle et qui a trop influé sur mes destinées pour que je ne la mentionnons pas ici. Depuis mon séjour à Longwood, j'ai vu peu de mystiques, un jeune habitant de l'île, mulâtre libre, dont je vais lieu d'être fort content. Tout à coup, il prit fantaisie à ce nom de mon privé. Posez pas en occupation et génieuse à nous tourmenter, ou comme beaucoup d'autres se sont obstinés à la pensée par suite d'un plan parfaitement combiné. Il me dépêcha l'officier de garde anglais pour m'annoncer qu'ayant conçu quelqu'un qui est tout de suite ce que mon domestique était natif de l'île. Il allait me le retirer et le remplaceront pour l'autre de son choix. Ma réponse fut simple et positive. Le gouverneur, disais-je, pouvait m'enlever mon domestique si cela lui plaisait, mais il devait s'épargner la peine de le remplacer par un autre de son choix. Je prenais chaque jour à me détacher des jouissances de la vie. Je serais au besoin, monsieur vieux, de mes propres mains. Cette privation déplucerait peu de choses au milieu des souffrances dont il nous enterrait. Alors commencerons à ce sujet une foule des messages et des notes sur Hazino, écrivez jusque 3 ou 4 fois par jour à l'officier de garde chargé de me donner autant de communications. Sir Hudson ne comprenait pas mes difficultés, disait-il, et n'imaginait pas quelle objection je pouvais avoir contre un domestique donné de sa main. Celui qui aurait choisi en voudrait bien autre. Son offre de le choisir lui-même n'était qu'une attention de sa part. Je souffrirais des allées et venues du pauvre officier et je n'étais fatiguée pour mon compte. Je l'ai prié donc pour épargner ses pas. Ça serait le gouverneur qui ma réponse demeurait toujours la même, savoir qu'il pouvait bien m'enlever mon domestique, mais qu'il ne devait pas songer à m'en faire accepter un de son choix, qu'il pouvait bien mettre garnison chez moi, pas la force, mais non jamais de mon propre consentement. Cependant, durant tous ces colloques, on avait fait venir mon domestique, on l'avait questionné. Elle l'avait retiré une première fois de mon service, puis rendu, est enfin retiré tout à fait. Je rendis compte de tout à l'empereur qui m'approuva fort de n'avoir pas voulu laisser introduire un espion, disait-il au milieu de nous. Mais comme votre réprobation juste à dire d'une manière charmante est dans l'intérêt de tous, il n'est pas juste que vous en souffrez seul. Faites venir Gentilini, mon valet de pied, qui prenne son service auprès de vous. Il sera enchanté de gagner quelques napoléons de plus. Vous lui direz d'ailleurs que c'est par mon ordre. Gentilini s'est rendu d'abord avec été, mais le soir même, le pauvre garçon vint me dire qu'on lui avait fait observer qu'il n'était pas convenable qu'un domestique de l'empereur servit un particulier. Et l'empereur poussa la bonté jusqu'à faire venir Gentilini pour lui en donner l'ordre de sa propre bouche. C'était ainsi que le gouverneur continuait à nous persécuter journellement et sous toutes les formes, bien que je n'en dise plus rien, non que je m'y accoutumasse. Mais parce que dans la masse de nos peines, celles qui ne vous venaient que de sa mauvaise humeur n'étaient plus que de légères accessoires, est en effet qu'orientale peut être près de nos grandes misères. Si l'on s'est bien pénétré de toute l'horreur de notre situation, on me voit jeter et probablement péjumé sur une plage déserte du milieu de la patrie, confiné dans une étroite prison, sous un ciel, dans un climat, sous un sol qui ne sont pas les nôtres. On me voit errer, vivant dans les sinuosités du tombeau. Ce terme probable de tentement, j'ai perdu ma femme, mes enfants, mes amis, bien que jouissant encore de la vie, mais leur univers, ce n'est plus le mien, et privé de sommeil de la communication des hommes, il me reste à pleurer les épanchements de l'amitié, les douceurs de la famille, les intimités, les charmes de la société. Certes, en lisant ceci, il n'est personne sans douter quelles que soient ses opinions, ce pays, ses dispositions naturelles qui ne m'accordent sympathiquement quelques regrets et ne se sont arrachés quelques mouvements de commisération dont il me voit à plaindre. Et bien pourtant, il aurait tort. Je vais me rendre enviable. Qu'il est celui dont le cœur ne batte à de certains actes d'Alexandre ou de César, qui approcherait sans émotion des vestiges de Charlemagne, de quel prix ne nous serions pas les paroles, les sons de voix de Henri IV? Eh bien, au moins de symptômes de quelques battements moraux, si je sentais le besoin de retremper mon âme, le cœur plein de telles sensations, l'esprit rempli de telles idées. Je m'écriais, je pesais tout cela mieux que tout cela. Et ici, ce ne sont point de ces illusions, de simples ressouvenirs d'histoire. J'y suis aux côtés même de l'objet vivant qui accomplit tant de prodiges. Chaque jour, chaque instant, je considère à mon gré le trait de celui dont un clin d'œil ordonna tant de batailles, décida de tant d'empire. Je lis sur ce front qui décoreront les lauriers de Rivoli, de Marengo, d'Austerlitz, de Wagram, de Jena, de Friedland. Je puisse presque toucher cette main qui régit tant de sceptres et distribua tant de couronnes qui saisit les drapeaux d'Arcole et de Lodi, qui, dans une occasion solennelle, rendait à une femme et pleurait les seules preuves de la culpabilité de son mari. Je tente de même voix qui, à la vue des pyramides d'Égypte, prononçait à ses soldats: enfin, tout haut de ces monuments, 40 siècles nous contemplons. Qui arrêtons ces suites à la vue d'un convoi de blessés autrichiens, disait, en se découvrant, honneur, respect au courage malheureux. Je causais presque familièrement avec celui-même dont les conceptions ont manié l'Europe qui se faisait au passé tant des ébellissements de nos villes et de la prospérité de nos provinces qui nous avaient élevés si haut dans l'esprit des peuples et avaient porté notre gloire jusque nous. Je les vois, je l'entends, je les soigne, je me force de lui être agréable, je le console peut-être. Quelle situation! Eh bien, à présent, me plaît-on encore? Une foule, au contraire. N'enviera-t-elle pas mon sort? Qui au fait obtint un tel bonheur, réuni de circonstances séparées, au nôtre?